Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du lundi soir où je vais recevoir Jérôme Cordelier pour un livre passionnant, Les Grandes Fractures, Les Chrétiens face aux défis du siècle, qui est le troisième volume, pas d'une trilogie, d'une quinquagie, d'une sextalogie, d'une undécalogie, enfin on verra bien où vous allez vous arrêter, Jérôme Cordelier, et qui raconte donc la manière dont les chrétiens du 19e jusqu'à nos jours, on y arrive peu à peu, ici on s'arrête à 1968, sont en train de prendre le pouls de l'époque et de s'y adapter, ou au contraire de la refuser. Avant que nous ne discutions avec Jérôme Cordelier de cet ouvrage passionnant et avec lequel on n'est pas obligé d'être d'accord à chaque instant, mais justement on en parlera pendant une heure et demie, nous allons écouter Patrick Simon qui veut lui aussi revenir sur la manière dont la France a été en situation de pré-émeute après la victoire du PSG à 2000 km de Paris.
Bonsoir Richard.
Bonsoir Patrick.
Bonsoir à tous. Alors j'ai intitulé ma chronique « Les adeptes du mal ». Effectivement, on a gagné. Et pour fêter ça, ils cachent. Remarquez que nous savons aussi que si on avait perdu, eh bien ils auraient aussi caché et volé. Ce simple constat fait apparaître une évidence. Les casseurs, pilleurs et autres voyous violents ne sont pas motivés par un objectif précis ou par un résultat concret, mais ils sont motivés simplement, je crois, par l'attrait que le mal représente pour eux. Ils aiment faire le mal. Alors, vous connaissez la prière du Notre Père. « Délivre-nous du mal », dit-on dans cette prière. Eh bien, c'est ainsi une nouvelle et curieuse expression collective à laquelle on assiste depuis quelque temps, celle qui consiste à faire le mal au lieu de s'en délivrer ou au moins de s'en éloigner. Alors, l'exemple des casseurs n'est pas le seul exemple. Il existe de nombreux autres exemples de ce comportement malfaisant. Et je voudrais, et d'ailleurs malheureusement, on rencontre ce genre de situation d'émeute en France essentiellement, parce que dans les autres pays où il y a des matchs, il n'y a pas d'émeute, du moins actuellement. Alors, je voudrais vous donner, amis auditeurs, une petite liste qui est loin d'être complète sur les absurdités, les anomalies qui existent dans notre pays. Première illustration, la protection des squatteurs. Jusqu'à une loi toute récente de l'excellent député de Chartres, Guillaume Kasparian, nous avions en France une pratique qui protégeait les squatteurs entrés illégalement et comme des voleurs dans une propriété. Une fois qu'ils avaient changé les clés, le propriétaire spolié ne pouvait plus les expulser qu'au terme d'une longue procédure. Eh bien, ça, c'est une absurdité qui récompense le mal. Deuxième absurdité. Les tribunaux prononcent souvent des peines ridicules de sursis ou des petites peines de prison, mais ça veut dire qu'ils vont pas en prison, contre les casseurs, ce qui les encourage à continuer leurs méfaits. Et ces peines trop faibles, qui évitent la prison aux accusés, peuvent s'expliquer par deux raisons. La première peut être légitime. Pas assez de preuves contre des gens attrapés au hasard alors qu'ils étaient là par hasard comme supporters du PSG ou parce qu'ils faisaient des courses et qu'ils courent moins vite que les casseurs. Ça peut se comprendre. La deuxième raison pour laquelle les peines prononcées sont faibles est, elle, illégitime. Ce sont les préjugés politiques de juges de gauche qui pratiquent la culture de l'excuse, laquelle aboutit à une culture de l'impunité. Troisième absurdité, ça n'a rien à voir, mais vous verrez que c'en est quand même une. Au lieu de gaspiller l'eau quand elle est en excès l'hiver, il vaut mieux la stocker pour pouvoir y puiser quand elle manque en été. Ça paraît une évidence. Et c'est ce qu'on fait grâce à des bassines, ce qu'on appelle des bassines, des retenues d'eau. Eh bien, il y a des gens violents, je dirais des gens habités par le mal, qui viennent empêcher ces retenues. Eh bien, voilà une troisième absurdité. Autre absurdité également écologique, celle-là, l'interdiction de certains produits phytosanitaires empêche la culture de certains fruits en France. Et a pour résultat qu'on est obligé de les importer d'autres pays qui, eux, les autorisent. Quatrième absurdité. Voici la cinquième. Les mortiers d'artifice sont utilisés par les casseurs et autres black blocs ou antifas contre la police. Ce matériel peut causer des dommages graves aux doigts, aux os des policiers. Il devrait être classé, comme l'a demandé et recommandé Gérald Darmanin autrefois, comme arme par destination et faire l'objet d'une interdiction totale. Ce qui ne se réalise pas, c'est aussi absurde. Sixième anomalie, des acteurs ou producteurs de cinéma signent une pétition contre Vincent Bolloré, actionnaire de Canal+. C'est leur droit de le faire, soit par conviction, soit par lâcheté, parce qu'ils veulent faire comme tout le monde, soit par mimétisme. Mais il y a un petit problème. Ils sont rémunérés dans leur création artistique ou dans leur performance par Canal+. C'est une nouvelle absurdité. Et l'on pense à cette phrase de Maurice Druon, ancien ministre de la Culture de Pompidou, sur ceux qui viennent le voir une chébille à la main et un cocktail Molotov dans l'autre. Ça s'appliquerait bien aux pétitionnaires contre Canal+. Septième absurdité. Les écoles catholiques sont parmi les rares à échapper au terrible déclin du niveau d'instruction dans notre pays. En particulier, le réseau d'écoles Excellence Ruralité. Et puis il y a aussi d'autres écoles, celles des écoles d'élite, là, comme Stanislas. Eh bien, alors qu'elles font un très bon travail, elles font l'objet de persécutions. C'est une nouvelle absurdité. Voilà la huitième. L'immigration a été considérablement réduite en Italie. C'est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire en France. Mais en Italie, ils ont la chance de n'avoir que l'immigration de travail. L'immigration de peuplement est très réduite. Or, nous, notre problème, ce n'est pas l'immigration de travail, mais c'est l'immigration de peuplement. Plusieurs gouvernements français ont tenté de supprimer le regroupement familial. Mais le Conseil d'État, et je crois, sans en être tout à fait sûr, la Cour européenne des droits de l'homme, s'y sont opposés. Eh bien, c'est à nouveau une absurdité. Et je terminerai avec la neuvième absurdité. Certains boulangers veulent travailler le 1er mai, avec leurs employés qui veulent aussi travailler et bien et gagner plus le 1er mai, mais les syndicats, les nuisibles, s'y opposent. Eh bien, on maintient l'interdiction. C'est encore absurde. Alors, il y a certainement beaucoup d'autres absurdités actions malfaisantes que vous, amis auditeurs, pourriez ajouter à ma petite liste. Alors, si vous en avez à suggérer ou si vous en avez à me suggérer, eh bien, n'hésitez pas et écrivez-moi à la radio et je me ferai un plaisir de compléter ma liste la prochaine fois. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Simon et à très bientôt sur Radio Courtoisie et j'espère qu'on va vous retrouver notamment vendredi. Merci et donc revenons à l'objet de cette heure et demie, que nous, enfin heure 19 que nous allons passer avec Jérôme Cordelier. Jérôme Cordelier, donc vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur au chef au Point, notamment en charge des questions religieuses. Et donc vous avez commencé à raconter l'histoire du catholicisme français d'une certaine manière, ou l'histoire du christianisme français, je ne sais pas comment vous le diriez, en partant du 19e siècle. Et pour le moment, ce troisième tome, donc d'une longue série, nous parle de la grosse décennie 1954-1968. Voilà. La guerre est finie, les prêtres ouvriers ont commencé à travailler, Jean XXIII va bientôt mourir, Paul VI va bientôt être élu pape, c'est un moment charnière. C'est ça qui détermine ces deux dates ?
Alors, je reprends juste un petit peu sur ce que vous venez de me dire. D'abord, merci de m'accueillir. Ensuite, j'ai pas commencé depuis le 19e siècle. En fait, j'ai commencé à faire l'histoire des chrétiens, donc catholiques, protestants, orthodoxes, depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement parce que je m'étais aperçu qu'on parlait beaucoup des relations entre les cardinaux et les évêques avec le régime de Vichy, et qu'on parlait assez peu de l'engagement des chrétiens de base, j'allais dire, des prêtres, des religieux.
C'est 45-54. Pourquoi est-ce que j'ai lu 1845 C'est 1945-1954, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, et ensuite, deuxième volume, L'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens, 1939-1945.
Donc ça, c'est le premier volume, en fait. Voilà. Je me suis lancé dans cette aventure parce que je me suis aperçu d'abord que c'était une mémoire assez oubliée. Donc on n'en parle pas, on ne parle pas de l'engagement des chrétiens pendant la guerre. Et donc ce bouquin, j'ai eu la chance, qui a assez bien marché, qui est disponible en poche d'ailleurs maintenant, le premier tome, avec une phrase de Bernanos que je trouve magnifique, c'est « L'espérance est un risque à courir ». Et donc après je me suis dit, mais ces chrétiens, ils continuent aussi après, dans leur engagement, à reconstruire la France et l'Europe. Ça a été l'objet du deuxième tome. Et donc maintenant, voilà, vient de sortir ce troisième tome, donc qui s'étend de la période de 1954 à 1968. Donc vous me demandez pourquoi ces deux dates, parce que d'abord, 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie, dans laquelle donc les chrétiens ont été très engagés, d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, on termine par 1968, parce que pour moi, 68 est un moment charnière, un moment de basculement, en fait, de l'histoire contemporaine et aussi de l'engagement des chrétiens. C'est le moment où le pays commence à se déchristianiser. La France reste encore chrétienne, mais commence à se déchristianiser. La crise des vocations commence à se dérouler, même si ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et donc, il fallait un peu... s'il fallait couper le temps en morceaux, si je peux dire, je trouvais que cette période, en plus, était foisonnante, parce qu'en 15 ans, se jouent beaucoup de choses qui ont encore des répercussions de nos jours. Et donc, une succession d'événements, hein, la guerre d'Algérie, évidemment, Vatican II, Nostra Aetate, mai 68, un débat intellectuel assez foisonnant, dont les chrétiens sont des acteurs importants. Les Trente Glorieuses, avec ces grandes dynasties industrielles, catholiques, protestantes, qui ont marqué beaucoup le tissu industriel français. Et donc, tout ça en 15 ans, une série d'événements qui, d'ailleurs, c'est vraiment la chose qui m'a étonné en écrivant ce livre, ont des répercussions encore aujourd'hui dans l'actualité immédiate.
Et effectivement, quand on lit ce tome-là, alors 39-45, les chrétiens dans la résistance, mais merci d'y avoir songé, c'est vrai qu'on a tendance à oublier tous ceux qui sont engagés et qui l'ont fait, bah, le général de Gaulle lui-même qui était un catholique, vous le rappelez abondamment dans ce tome-là, les grandes fractures, les chrétiens face au défi du siècle 54-68, mais aussi, je sais pas, Honoré d'Estienne-d'Orve et quelques autres. Et il y a ensuite... l'idée qu'on va reconstruire qu'on va reconstruire la France, qu'on va reconstruire l'Église. Et il y a quand même l'idée sous-jacente d'une Église pas forcément abîmée, mais d'une Église en décalage. En fait, c'est notamment pour ça que les prêtres ouvriers commencent à expliquer qu'on n'a jamais véritablement christianisé la France, que la France est toujours en quelque sorte une nation païenne avec un vernis chrétien, et que quand on regarde la consommation de sacrements, la manière dont on a fait la communion solennelle une espèce de marché, la manière dont les gens ont un catéchisme sans doute médiocre et quasiment aucune connaissance des Écritures, et je ne parle même pas de théologie, ils disent en fait on a raté le coche et on n'a pas été au cœur de la pâte humaine. Les communistes, eux, ont réussi à être véritablement des artisans de paix. Alors bon, on va pas revenir sur la mythologie communiste, c'est un autre bouquin qui a déjà été écrit, mais les prêtres, et donc l'Église de France, se dit voilà, il faut qu'on se lance cette expérience du prêtre ouvrier qui va être le levain dans la pâte humaine plutôt que d'être une espèce de classe bourgeoise à part.
Oui, c'est d'ailleurs un livre qui s'appelait La France, terre de mission, qui était à l'époque un espèce de best-seller très important. Mais après, les prêtres ouvriers, ils vont avoir quelques problèmes avec Rome, justement, puisqu'ils en feront un peu trop et que Rome, avec ce pape Pie XII qui est obsédé par la... à raison d'une certaine manière par la menace communiste.
Ah oui, quand même, trouver... Staline, c'est pas non plus le petit père des peuples, a aussi déjà tué 50 millions de personnes, donc comprend que ça puisse inquiéter.
Voilà, et puis surtout, il est un petit peu omnubilé par le fait que il y a une porosité entre certains prêtres ouvriers et les théories marxistes. Et donc... c'est pour ça que Rome va faire en sorte d'interdire ces prêtres ouvriers. Mais ça, je l'abordais surtout dans le tome précédent.
Oui, non, mais parce que je dis 54, parce que pour moi, 54, c'est justement, c'est le...
Mais qui est toujours disponible en librairie, donc il n'y a pas de problème.
Vous êtes un excellent vendeur, j'ai encore dû être non seulement un bon écrivain, mais en plus un bon vendeur. Les 54, c'est le début de l'interdiction justement des prêtres ouvriers, si je ne m'abuse. Et c'est donc le moment où l'Église est à tenter, en tout cas l'Église de France, cette expérience des prêtres ouvriers. On s'est rendu compte du cul-de-sac que ça pouvait représenter. Et l'Église est quand même, en tout cas les catholiques en France, les protestants, sont à la recherche d'une manière de re-christianiser le pays, puisque voilà, ce pays est déjà reconstruit, mais ce pays, vous l'avez signalé, est quand même en train de perdre de cette culture chrétienne, cette civilisation chrétienne. Et il y a quelque chose qui va être crucial dans la manière dont les chrétiens vont se positionner par rapport au temps, comme aurait dit saint Augustin, mais qui dit « nous sommes les temps ». Et là, les chrétiens de 54 disent peut-être « nous sommes les temps », c'est la guerre d'Algérie. Voilà. Et donc, une bonne moitié du livre est consacrée à cette guerre d'Algérie
un tiers,
à ses développements. Oui.
J'ai beaucoup travaillé cette période, puisque cette période reste évidemment passionnelle. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de lien passionnel avec l'Algérie, ce qui est... Enfin, beaucoup de monde a un lien passionnel d'un côté comme de l'autre avec l'Algérie. Moi, non. Donc, mon père, évidemment, a fait un petit peu la guerre d'Algérie, mais il n'était pas non plus en première ligne. Donc, voilà. Mais par contre, ce que j'ai trouvé en interrogeant, parce que vous l'avez vu, j'essaye de faire des livres assez vivants, c'est-à-dire en mariant les témoignages avec les éclairages d'experts, si on peut dire.
Et c'est très intéressant, puisque vous prenez certains témoins donc, qui ont vécu les événements d'Algérie, mais vous les suivez jusqu'à leur mort en 2019, ou parfois jusqu'à leur pas mort, en 2024 ou 2025.
Et j'essaye de faire un espèce de kaléidoscope juste, en fait. J'essaye d'être juste. Sur la guerre d'Algérie, j'ai autant interrogé Slimane Zeghidour, par exemple, journaliste, qui est très intéressant, d'ailleurs, dans ses témoignages, qui est né dans un petit village au fin fond de l'Algérie, et qui raconte comment il a été un peu sauvé par l'armée française, parce que sinon il aurait pu mourir, et puis il a été éduqué par l'armée française. Guy Gilbert, le curé des Loubards, qui était engagé pendant la guerre d'Algérie et qui a raconté comment il a vu la barbarie à l'œuvre dans la guerre d'Algérie. Mais j'ai aussi rencontré, parce que j'avais suivi le dernier voyage présidentiel d'Emmanuel Macron en Algérie en tant que journaliste au Point, et donc j'ai rencontré là-bas une religieuse très intéressante dont les parents, qui étaient nés en Algérie, sœur Claire-Marie, qui vit maintenant à Nancy, et qui, ses parents ont dû partir, rapatrier donc en 1962, alors que sa famille était présente depuis le 19e siècle. Et puis, elle a décidé de revenir pour apprendre le français aux Algériens. Donc c'est un témoignage très émouvant. Mais il y a aussi Bernard Zeller, le fils du général Zeller, qui d'ailleurs a cet engagement assez beau d'essayer de sans arrêt défendre la mémoire de son père. Et donc son éclairage aussi a été intéressant. Donc j'essaye d'avoir des témoignages qui permettent d'éclairer une réalité. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans la guerre d'Algérie, en fait, c'est de voir que d'abord, les chrétiens sont très engagés, d'un côté comme de l'autre. Donc il y a d'un côté des partisans de l'Algérie française, et donc cet engagement peut aussi se comprendre parce que ce sont des gens qui sont nés sur cette terre, donc une terre qui est aussi à l'époque imprégnée de christianisme. C'est quand même la terre de Saint-Augustin, comme le pape l'a rappelé en allant en Algérie récemment. Et puis de l'autre côté, on a des chrétiens qui défendent une Algérie indépendante parce que c'est le vent de l'histoire, c'est-à-dire la décolonisation doit se passer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est d'un côté comme de l'autre, ces chrétiens puisent leur engagement dans la lecture de l'Évangile, sauf qu'ils n'ont pas la même lecture parce que cela vient évidemment de leur itinéraire personnel et de leur rapport à l'histoire. Et donc, on a des parcours assez étonnants. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a les deux faces qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, c'est d'un côté, vous avez un André Mandouze, spécialiste de Saint-Augustin, qui est proche du FLN et qui se bat pour une Algérie indépendante. Et puis de l'autre côté, vous avez un Georges Bidault, qui a été quand même le grand résistant, qui a succédé à Jean Moulin, que De Gaulle détestait. Enfin, les deux hommes se détestaient.
Oui, De Gaulle ne pouvait pas supporter qu'il ait quelqu'un d'autre à côté de lui.
qui a été un pilier des gouvernements de la 4e République, donc qui était un homme qui comptait, un notable politique, et qui, à partir du moment où il prend fait et cause pour l'Algérie française, part dans les oubliettes de l'histoire. Et puis, entre deux, vous avez des personnages comme Jacques Soustel, par exemple, qui arrive en Algérie, qui est un ethnologue, qui parle plusieurs dialectes, qui est engagé, qui, à l'époque, est pour l'indépendance de l'Algérie. En tout cas, il dit qu'il faut avoir une solution où on respecte, évidemment, les droits des personnes qui vivent sur cette terre depuis des siècles et des siècles. Et en fait, il va évoluer au feu de la guerre, si je puis dire, et face au charnier pour devenir un des principaux artisans défenseurs de l'Algérie française. Donc tous ces parcours m'intéressent parce qu'ils sont très, très différents, très iconoclastes, si je puis dire, et surtout très engagés et avec une sève évangélique des deux côtés. Et les uns et les autres sont sincères. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est la sincérité, l'engagement, et de voir que c'est souvent des deux côtés, on a des personnes bouleversantes d'humanité, en fait.
Et c'est vraiment l'une des qualités de votre livre. C'est moins un livre d'histoire, même si on suit une trame historique, qu'un livre de rencontre où vous proposez à chaque fois des personnages complexes. Et il y en a quelques-uns donc, dont les opinions sont bien arrêtées, mais on va revenir justement sur Sœur Claire-Marie. On reviendra aussi sur ce prêtre ouvrier qui a été l'un des porteurs de valises du FLN. On reviendra sur Pie XII et la décolonisation. Pie XII, figure controversée s'il en est. Voilà, et juste à titre personnel, une partie des chrétiens aussi sont pour que l'Algérie reste française parce qu'ils se souviennent en fait des barbares, qu'ils se souviennent des milliers d'esclaves chrétiens, ils se souviennent en fait du fait que l'islam, bien sûr religion de paix et d'amour, a aussi une fâcheuse tendance à faire en sorte que dans les sols qu'elle possède, à instituer des statuts de dhimmi et que donc juifs et chrétiens sont quand même super maltraités. Et d'ailleurs, on voit ce qui se passe en ce moment dans tous les pays musulmans sur la diminution drastique du nombre de communautés chrétiennes, même quand elles étaient anti-islamiques. Ça c'est le propos polémique de l'émission.
Vous êtes en droit, de même que je suis pas en droit, je suis en droit de ne pas partager tous vos propos. Ça que j'aime bien dans le débat.
Sœur Claire-Marie est vraiment très intéressante parce qu'effectivement, elle est fille de personnes nées en Algérie, petite fille de personnes nées en Algérie, elle-même née en Algérie. Et donc, quand elle revient en Algérie, l'indépendance faite, elle est éligible au poste de directrice d'école, puisque je crois que c'est comme ça qu'elle va commencer, parce qu'elle coche toutes les cases du nouvel État algérien qui est, malgré tout, se rend compte que Algérien né en Algérie, fils de né en Algérie, petit-fils, Claire-Marie rentre dans les cases, sauf que manque de peau, c'est aussi une Française, c'est aussi une religieuse catholique. D'ailleurs, elle demande la nationalité algérienne. Mmh. Et racontez-nous ce qui se passe après. Parce que donc, elle commence effectivement à revenir sur cette terre dont sa famille y était très attachée. Son père, en revenant en France, n'a rien retrouvé qui correspondait à sa situation. Il a fini balayeur dans une caserne. Enfin, bon, c'est horrible.
Donc, il a été complètement déclassé, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Hein, et donc, ça, il faut le dire aussi. Hein, en plus, ça, c'était vraiment la classe moyenne. Hein, c'était pas donc, sa famille. C'était toutes ces. Au XIXe siècle, toutes ces personnes qui sont parties en Algérie, comme partaient aussi vers un Eldorado, et qui ont profité aussi des soutiens des gouvernements successifs de la Troisième République pour s'installer là-bas et pour en faire une terre prospère. Donc c'est toutes ces générations. Et donc ce qui est très émouvant, je trouve, dans le parcours de sœur Claire-Marie, c'est qu'elle revient. Donc, comme vous l'avez dit, elle n'est pas directrice, mais elle va rester dans son engagement, dans son sacerdoce, pour apporter la culture française et la langue française
aux petits Algériens. Elle a été directrice, rassurez-moi.
Elle a été directrice, mais en 62, elle ne l'est plus, puisque le gouvernement algérien ne veut plus pour des considérations politiques, en fait. Mais elle reste quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va rester jusqu'à sa retraite, d'ailleurs, et donc avec un engagement par amour pour cette terre, en fait. Et quand je l'ai rencontrée, c'était dans la chapelle... Une chapelle qui surplombe la baie d'Oran, c'est un paysage absolument magnifique. Donc, il y avait Emmanuel Macron qui venait en visite, là, c'était sa dernière visite. J'étais là, et donc elle a dit au président français, elle a dit, surtout, il ne faut pas nous oublier, nous, qui sommes pieds noirs et qui restons sur cette terre.
Voilà. Et donc, le président Macron lui a pris les mains longuement. Vu ce que nous pensons du président Macron sur Radio Courtoisie, je n'en dirai pas plus. Il y a un passage aussi qui est tout à fait étonnant. C'est le moment où on lui dit bon, très bien, vous êtes là, vous pouvez rester, mais en fait, enlevez votre voile, etc. Et donc, on sent que. Tous ces catholiques, tous ces protestants, parce qu'il y a aussi des protestants, c'est une partie très intéressante du livre, avec notamment la manière dont les protestants ont une vision de l'Algérie qui n'est pas la vision de l'Église catholique. Il y avait 250 diocèses du temps de Saint-Augustin. Bon, voilà, maintenant, il y en a beaucoup moins. Je crois que j'ai même pas le cardinal Vesco. Oui. On doit avoir un diocèse pour toute l'Algérie.
Non, il y en a plusieurs. Il y a le diocèse d'Alger, le diocèse d'Oran. Ça fait déjà deux.
Et on se retrouve avec un État algérien qui s'affirme de plus en plus musulman, non seulement indépendant vis-à-vis de la France, mais de plus en plus musulman, islamique même, jusqu'aux événements des années 90 qu'on a connus. Et cette religieuse fait partie donc des gens à qui on dit, voilà, il ne suffit pas d'avoir demandé la nationalité algérienne, il faut aussi en fait commencer à mettre votre catholicisme sous le boisseau.
Oui, mais elle reste. Elle reste en tant que religieuse. Et elle n'est pas, en fait... excusez-moi.
Je vous en prie.
Elle n'est pas attentée. Enfin,
on n'attend pas à sa vie. Donc, voilà, il y aura des attentats
dans les années 90.
Voilà. Vous les évoquez aussi un peu. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler.
Le tribut sera lourd. Hein, d'ailleurs, même si le cardinal Vesco dit que pendant la décennie noire, il y a eu 200 000 morts et il y a eu 18 martyrs chrétiens. Bon, c'est quand même des personnages emblématiques, notamment ces religieuses. Le pape a mis l'accent là-dessus à sa dernière visite, qui ont été quand même mitraillés en allant à la messe. Donc voilà, enfin bon, je referme cette parenthèse sanglante, si je puis dire. Mais elle reste, mais effectivement, ces chrétiens sont malmenés dans cette Algérie indépendante, puisqu'ils étaient quand même, c'est ce que m'a raconté le journaliste Slimane Zeghidour, c'est-à-dire qu'il y avait des villages français où il y avait des clochers, des villages français qui s'appelaient Lafayette ou Gravelotte, et donc il y avait une présence chrétienne importante. Et donc, ils sont, peu à peu, mais on le voit même en Algérie actuellement, cette grande mosquée d'Alger que j'ai pu visiter, qui est flamboyante, et d'où l'on peut voir le point minuscule qui est la basilique Notre-Dame d'Afrique. Voilà. Mais il y a des gens qui continuent le cardinal Vescornéen, qui continue à être des sentinelles sur cette terre-là. Et je trouve que Claire Marie, cette religieuse, et d'ailleurs, je vous remercie de mettre l'accent sur elle, parce que... Elle,
ah, c'est un des personnages très émouvants du livre.
Elle est très émouvante, et c'est une sentinelle pour moi, c'est une sentinelle sur une terre de fracture, justement. Elle reste. C'est pas évident, mais elle reste, et surtout, elle témoigne de sa foi catholique dans ce pays musulman, environné d'un contexte qui dans un étau qui va se peu à peu se refermer quand même, et donc voilà, je trouve que moi c'est ces personnages là quel que soit l'engagement me bouleversent en fait, hein. Ce qui m'intéresse c'est l'engagement des personnes à partir du moment où il est sincère et qui se fait dans l'humanité, si on peut dire. Mais au même titre que j'ai été étonné de découvrir, par exemple, que le général Massu avait adopté 2 enfants arabes après la guerre avec sa femme. Donc, ça, pour moi, c'est le signe aussi de l'humanité, quoi. Et donc voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est, et je vous remercie de l'avoir dit d'ailleurs, c'est que moi, j'essaye de d'écrire des histoires d'humanité, au pluriel, si on peut dire, mais dans des histoires vivantes et des histoires d'humanité. Voilà. Donc évidemment, de temps en temps, ces gens sont dans les tempêtes de l'histoire. Ils sont pris dans des politiques qui les dépassent souvent. Et donc, mais beaucoup restent. Ce sont des sentinelles, et c'est ça qui est important, je trouve.
Alors, l'Église officielle, avec le cardinal Vescot, a aujourd'hui un point de vue très tranché sur la guerre d'Algérie. À l'époque, une partie de l'Église officielle avait elle aussi un avis très tranché, un peu différent de celui du cardinal Vescot. Vous l'évoquez. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont vous parlez de la vision des protestants, donc voilà, qui eux, dont évidemment ont un rapport numériquement déjà très différent à l'époque par rapport aux catholiques. Je dis très différent parce qu'aujourd'hui, il semble que le protestantisme évangélique ait fait de nombreux adeptes en Algérie.
Comme dans beaucoup de pays.
Je parle de l'Algérie parce que c'est notre sujet, mais effectivement, d'une manière générale dans le monde, il y a un prosélytisme vigoureux et qui visiblement répond à une attente. Les protestants sont un peu des observateurs et des observateurs précis qui ont l'habitude d'être un peu décalés. Voilà, ils ne font pas partie, si j'ose dire, des cercles les plus officiels. Et ce sont eux qui vont très rapidement se rendre compte que ce qui est en train de se passer en Algérie est irréversible et qu'il y a en ce moment une bascule qui est en train de se faire, qui est une bascule politique, une bascule civilisationnelle. Et c'est en lisant les bulletins protestants des années 50 qu'on a sans doute la meilleure vue chrétienne sur ce qui est en train de se passer en Algérie.
Oui, ils sont en train de se dire, mais comme beaucoup de prêtres de base, de religieux de base, c'est que de religieux qui sont en contact avec le terrain, en fait, que l'indépendance de l'Algérie est inéluctable. C'est le courant de l'histoire, si on peut dire. Donc, moi, j'observe ça, je suis journaliste, j'ai énormément travaillé, évidemment, l'histoire et les bouquins, les témoignages. J'ai été voir beaucoup d'historiens, d'experts. Mais j'observe ça et je me dis, bon, ben voilà, que des gens qui soient partisans de l'Algérie française s'accrochent à leur terre, qui est leur terre de naissance, dans lesquelles souvent étaient présents leurs parents, leurs grands-parents. C'est logique, c'est cohérent, c'est normal. Mais le vent de l'histoire, c'est ça va vers une indépendance de l'Algérie. Et d'ailleurs, c'est ce vent de l'histoire que va saisir. Alors là, j'ai été vraiment très étonné de ces découvertes. Pie XII, par exemple, le pape, qui sera un des premiers à dire que, de toute façon, je résume, l'Algérie sera forcément indépendante. Donc, il faut accompagner ce processus plutôt que de s'opposer à ce processus. Et c'est ce que fera Monseigneur Duval. Il le paiera très cher, Monseigneur Duval, son engagement justement pour cet humanisme-là. Et beaucoup de prêtres, beaucoup de protestants seront parmi les premiers, et d'ailleurs je vous remercie d'avoir repéré ça, à dénoncer la torture. Et donc là, on créera une première ligne de clivage au sein des chrétiens, catholiques, protestants, mais surtout au sein des catholiques, entre ceux qui disent « bon ben, la torture de toute façon fait partie de la guerre ». Et si l'on veut préserver la civilisation chrétienne, eh bien, il faut en passer par là. Et ceux qui, justement, chrétiens, qui, au nom de l'Évangile, disent « Eh mais non, c'est pas possible. Là, on est dans un contexte, on va à l'encontre de l'humanité, donc il faut dénoncer ces actes de barbarie. »
Monseigneur Duval, donc, justement, en... est la cible en partie des partisans de l'Algérie française, puisque donc des églises d'Alger sont plastiquées. Et Mgr Duval tient sa ligne, vous le citez, « Lorsque j'ai dénoncé la violence injuste, je l'ai fait au nom de la morale d'une manière générale. Comme représentant de l'Église, je portais les souffrances de tous et j'étais persuadé qu'en défendant les exigences de la justice, je donnais aux uns et aux autres le maximum de chances de faire prévaloir leurs légitimes intérêts. » Et donc il dénonce la torture en citant Pie XII. Et là aussi, c'est vraiment une des découvertes du livre. La manière, non pas dont vous réhabilitez Pie XII, mais dont vous demandez aux gens qu'ils vous lisent, de porter un autre regard. Pie XII, c'est pas juste le pape qui s'est tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je l'annonce parce qu'on sait maintenant avec les travaux d'historiens que la réalité est un peu plus complexe que juste le silence de la papauté, comme si lorsque le pape criait et hurlait, le monde bougeait. Là, ça étonne beaucoup. Si Léon XIV était écouté, si François était écouté, si Jean-Paul II avait été écouté, ceux qui reprochent le silence de Pie XII n'ont pas l'air d'avoir été très attentif à tout ce qu'ont dit les papes précédents ni les papes successeurs.
Enfin, il y a des papes qui ont marqué par leur prise de position.
Oui, bien
donc,
sûr.
C'est vrai que Pie XII aurait pu marquer par ses prises de position pendant la guerre.
Voilà, bon, il y a une diplomatie secrète qui est en train d'être révélée.
Ça, c'est autre chose. Le silence public et le silence magistériel.
Oui,
si
Mit Brenninger Sorge aussi, n'est-ce pas? Donc l'encyclique de 1937. Mais voilà. En tout cas, vous nous dites, plutôt que de se focaliser sur la manière dont Pie XII aurait fermé sa bouche pendant la guerre, regardez, en fait, c'est le pape de la décolonisation et c'est le pape qui, en 1953, a un discours contre la torture. Donc, c'est un pape, donc il n'est pas juste un anticommuniste viscéral, c'est en fait un pape humaniste et pour lui, le joug communiste est intolérable à cause du communisme, mais aussi à cause de la manière dont l'impérialisme communiste, l'impérialisme russe fait en sorte de soumettre les nations. Et il dit, en fait, toutes les nations ont la possibilité d'être libres et il n'y a pas de raison, en fait, que de condamner, entre guillemets, l'empire communiste sans condamner les autres impérialismes.
Ouais, c'est ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, celui qui m'a bien éclairé sur Pie XII, c'est un historien qui s'appelle Frédéric Lemoal, qui a sorti une biographie très intéressante récemment sur Pie XII. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder comme ça. Et c'est vrai que, vous avez raison, c'est vrai que le discours sans arrêt, c'est Pie XII, on le ramène toujours à son silence qui est avéré, enfin, son silence pendant la Shoah, mais on ne voit pas, en fait, l'entièreté du pontificat de Pie XII, la façon dont il a créé des digues face à un communisme conquérant. Ça a été, par exemple, le premier pape à utiliser la radio-télévision. Enfin, c'était un long pontificat qui, d'ailleurs, s'est achevé dans une agonie terrible. Enfin, voilà, donc, avec des images de lui, du cadavre. Enfin, c'était quelque chose d'horrible. Mais au milieu, il y a toutes ces décolonisations. Et moi, c'est vrai que j'étais vraiment très étonné par ces messages de Pie XII répétés contre la torture, pour les indépendances des pays colonisés. Et donc, c'est ça, voilà. Parce qu'on ramène souvent Mgr Duval et un peu l'épouvantail commode. On se souvient du surnom dont il avait été affublé,
Mohamed Duval.
Et donc, mais il faut voir que, en fait, Mgr Duval, c'est le serviteur d'une politique, mais en tout cas de la ligne spirituelle du Vatican. Et donc, c'est la ligne de l'Église, en fait, l'indépendance de l'Algérie à l'époque.
Alors, c'est la ligne de l'Église, donc en Algérie et dans le reste du monde. Et évidemment, en France, donc, les catholiques se retrouvent à devoir choisir leur camp, d'une certaine manière. Vont-ils rester pour l'Algérie française tout en étant à l'intérieur de l'Église? Vont-ils au contraire considérer que si ce combat, la décolonisation, est le beau combat mené, eh bien très bien, il faut y participer. Et c'est le moment où on sent que l'Église de France est vraiment très tentée d'embrasser l'époque dans tous ses mouvements généreux. Et en se posant sans doute moins la question de la fermeté théologique des principes ou de la rectitude morale de ceux qui prônent telle ou telle solution, que de se dire il y a une espèce de vérité, en fait, de l'histoire. Vous parliez du vent de l'histoire tout à l'heure. Il y a une espèce de vérité du mouvement social, et que lutter contre le mouvement social, c'est d'une certaine manière ne pas être du côté de l'Évangile.
Alors, je dirais plus lutter contre le cours du temps. plus que lutter contre la vérité du mouvement social.
J'avais l'impression que eux considéraient que si le cours du temps va dans un sens, la vérité est forcément dans le sens de ce cours-là. Il n'y a pas une vérité en soi du cours du temps, mais si les temps évoluent, il faut évoluer avec les temps.
Comme vous le savez, le pape notamment, il a un regard universel. Hein, donc, il voit bien que le monde est en train de changer. Donc, le monde est en train de... Alors, on est encore un Occident chrétien, européen, si on peut dire, qui donne la musique au monde. Mais de plus en plus, le curseur est en train de basculer vers le sud. Et donc, ce pape qui voit ces équilibres, ça ne sera pas comme aujourd'hui, où vraiment l'Église du Sud... Et d'ailleurs, je fais entre parenthèses ce que vous disiez tout à l'heure sur le cardinal Vesco est très intéressant, parce que le cardinal Vesco, il est maintenant le chef d'une église en Algérie qui regarde davantage vers le Sud que vers le Nord. Et donc, c'est d'où ces prises de position. Donc
C'est aussi quelqu'un qui est contre le prosélytisme, qui explique que ça ne sert à rien de convertir. Effectivement, il a vraiment changé de bord, il n'y a pas de doute.
Non, il n'a pas changé de bord. C'est, en fait, il s'adapte à un contexte.
Oui, les protestants évangéliques en Algérie n'ont absolument pas sa position.
Ça, je ne sais pas.
Par exemple, eux décident de convertir.
Oui. Oui, mais lui aussi, à sa manière, il convertit.
Si on regarde le nombre de protestants évangéliques et le nombre de catholiques...
C'est partout.
Mais c'est partout parce que la manière de convertir de Mgr Vesco ressemble à la théorie du levain dans la pâte qu'on nous avait fourguée dans les années 60-70, où il fallait ne rien dire et faire en sorte que les gens se convertissent tout seuls.
Ce qui est intéressant, si vous voulez, on s'éloigne un peu du cœur de mon ouvrage, on y reviendra.
Vous avez appuyé sur le bouton Vesco, ça m'a titillé.
Et donc, en fait, la ligne, c'est celle qui a été... énoncé par le pape dans un discours qui n'a pas été complètement retenu, qui n'a pas été mis trop dans le débat public, mais qui est un discours important, qui est son discours quand il arrive devant le monument aux martyrs de la guerre d'indépendance.
Les positions de Vesco, il les tenait avant que le pape Léon XIV ne soit élu.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce discours est à cette aune-là. C'est-à-dire, en fait, c'est une église qui est en train de changer de physionomie, de visage. C'est une église qui est plus tournée vers le Sahel, vers l'Afrique, que vers le Nord par les fidèles.
Même là, je ne serais pas forcément d'accord avec vous. Au moment de Fiducia Supplicans, Mgr Vesco est la seule conférence épiscopale africaine à avoir été pour Fiducia Supplicans, contrairement justement à toutes les conférences épiscopales du Sud.
Oui.
Changeons de sujet et parlons d'autre chose que Mgr Vesco. C'est quoi les grandes fractures? Voilà, Mgr Vesco est une petite fracture entre vous et moi. J'aurai encore de lui. Dans cette redécouverte du pape Pie XII, donc il y a bien sûr dans ces grandes aventures, faut-il être communiste ou pas, peut-on être à la fois communiste et catholique? En fait, si le sens de l'histoire paraît à un moment donné être celui du communisme, comment doit-on se positionner? Et donc il y a cette figure d'un prêtre ouvrier qui est quand même assez remarquable. J'ai mis mon signet à la mauvaise page, mais donc qui est à la fois donc prêtre ouvrier, crypto-marxiste, je reprends l'adjectif, les deux adjectifs que vous lui avez accolés, porteur de valise pour le FLN, qui est condamné par contumace pour toutes les actions qu'il a faites en faveur des terroristes du FLN, et c'est un prêtre qui est en même temps dans l'Église de France, à côté de ceux qui vont bientôt devenir ce qu'on appellera les traditionnalistes, ou à côté d'autres qui considèrent qu'il n'y a aucune raison de porter les valises du FLN, pas plus que de louer les tortionnaires de l'OAS, pour reprendre les mots de l'époque.
Oui, mais c'est ça. Mais alors, je ne sais plus à qui vous faites allusion, en fait.
Il faudrait que je le retrouve.
Évidemment, de toute façon, c'est la richesse des engagements, en fait, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant.
Robert Davzy, c'est
ce que je pensais. Voilà.
Côté FLN, Robert Davzy, prêtre ouvrier, catholique, crypto-marxiste, intègre le réseau Janson, cache des militants en France, leur fait passer la frontière pyrénéenne, imprime leurs tracts, transfère des armes, fort d'une conviction, permettre au FLN, citation de Davy, d'exister en France pour que les Algériens comme tels en France aient une existence politique. Mmh. Voilà. Donc il écrit...
Mais si vous lisez après, il y en a d'autres, ou avant, qui sont de l'autre côté. C'est ce que j'essaye de brosser vraiment des portraits de... Et ce qui m'intéresse en fait, enfin je trouve en écrivant ce livre... moi, si vous voulez, quand je me lance, je n'ai pas d'objectif, en fait, sauf de raconter une histoire, la grande histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est la mosaïque, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que, justement, l'Église catholique et le monde chrétien, parce que je tiens vraiment beaucoup à ce qu'on... Et d'ailleurs, merci d'avoir fait cette mention des protestants. Je tiens beaucoup à raconter le monde chrétien global. Donc, ce qui est intéressant, c'est la richesse des engagements et de voir que cette Église catholique qui est souvent perçu comme un bloc monolithique par la présence du pape, cette autorité souveraine qui règne sur une communauté de fidèles, en fait, est un foisonnement d'engagement, souvent qui ne sont pas tièdes, et donc qu'on ne perçoit pas toujours de l'extérieur. Donc, quand on est chrétien, on sait qu'il y a notamment cette fameuse phrase « Il y a plusieurs pièces dans la maison du Père », mais là, on le sent vraiment... quand il y a des grandes tensions de l'histoire. Dans les grandes tensions de l'histoire, moi, ce que je repère, c'est d'abord les chrétiens s'engagent, et ensuite, ils s'engagent pas qu'un peu, ce ne sont pas des engagements tièdes, et ensuite, cet engagement est souvent sincère, et ce qui est intéressant, c'est que leur lecture de l'Évangile entraîne des engagements souvent opposés, diamétralement opposés, même fortement opposés, passionnellement opposés. Mais en fait, je trouve que ça montre une certaine liberté en fait que peuvent procurer cette foi-là.
On va revenir sur les prêtres ouvriers, donc pas forcément d'Avzy, avec toujours Pie XII, qui est vraiment l'un des fils rouges du, y compris d'ailleurs dans la manière dont vous dites qu'il a préparé Vatican II d'une certaine manière, lui et Jean XXIII surtout.
Oui, alors ça, c'est
Jean XXIII avant qu'il ne devienne Jean
XXIII. C'est Giovanni Maria Vian qui est un grand expert, vous savez, qui est l'ancien patron de l'Osservatore Romano et qui avait été nommé par Benoît XVI et démis par le pape François. Qui me raconte ça, parce que c'est le grand expert de Vatican II, et c'est une source d'ailleurs inépuisable, parce que c'est un des meilleurs connaisseurs, je trouve, de l'histoire de l'Église contemporaine. Et c'est lui qui disait qu'évidemment, Pie XII, c'est un peu, il a préparé le terrain. En
fait. Voilà, et donc là aussi, une autre manière de revoir Pie XII. Et donc, le 4 septembre 1949, dans une des directives, Pie XII dit « Il ne faut pas que le monde ouvrier soit la proie du matérialisme athée. On doit tout mettre en œuvre pour le conserver ou le ramener à Dieu et au Christ. » Donc là, quelque chose évidemment d'anti-parti communiste. Et une position qui se concrétise d'abord par l'interdiction à partir de 1954, voilà, pour ces hommes de Dieu, donc prêtres ouvriers, de travailler plus de 3 heures en usine et de s'engager dans les syndicats, action qui conduira au démantèlement et à la condamnation de la mission décidée par le nouveau pape Jean XXIII en 1959. Voilà. S'il faut choisir entre l'efficacité apostolique et l'intégrité sacerdotale, je choisis l'intégrité sacerdotale.
Oui, parce qu'à l'époque, bien sûr, comme vous le savez, je pense que vos auditeurs le savent aussi, c'est que le Parti communiste est en conquête, et donc très fort, dominant. L'Église catholique a vraiment... C'est un ennemi, quoi. C'est-à-dire,
oui, et donc, c'est un ennemi persécuté dans tous les pays communistes.
Voilà. Et donc, sur les lieux de fracture, la grande peur du Vatican et de Pie XII, c'est de voir justement ces prêtres qui peuvent être tentés de faire l'alliance entre le Christ et le grand soir, quoi. Et donc souvent dire, et d'ailleurs on retrouvera ça après, c'est ce que j'ai fait dans le chapitre sur mai 68, où il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup de chrétiens, des étudiants, mais aussi des figures chrétiennes, des intellectuels chrétiens, qui disent « Bon, on va commencer par le grand soir, comme ça, après, on pourra imposer nos vues chrétiennes. » Donc, ce qui est souvent, c'est prendre le problème un petit peu à l'envers. Mais,
donc, c'est un peu jouer les idiots utiles, voilà, quand on voit comment les autres grands soirs se sont terminés. Mais...
On comprend pourquoi Pie XII est omnubilé par ça. Mais vous dites, c'est un peu le fil rouge, là, c'est un peu exagéré.
Chaque fois qu'on ouvre un livre, évidemment, il y a des choses qui nous surprennent. J'avais lu le livre de Frédéric Lemoyne, mais je ne l'ai pas lu comme vous.
Oui.
Et donc, du coup, retrouver ce personnage de Pidouge avec la décolonisation, cette manière de... voilà, ça a été ma surprise. Et comme, voilà, Pidouge resurgit de temps en temps, c'est vrai, peut-être que j'ai été...
Merci de votre lecture de curiosité. Moi, ce qui m'a beaucoup... Vous parlez de surprise, par exemple, dans mon enquête, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de voir toutes ces élites de pays qui vont accéder à l'indépendance, qui ont été formées par les chrétiens et les valeurs chrétiennes, qui ont été pétries par les valeurs chrétiennes. Par exemple, un Léopold Sédar Senghor, qui sera donc le premier grand président du Sénégal, très lié à la France. On connaît son histoire avec Pompidou, Normale Sup, l'Académie française. Enfin, et donc, c'était un homme, il a failli être prêtre. Moi, j'ai découvert ça en faisant ce livre. Et donc, il était pétri des valeurs chrétiennes. D'ailleurs, sa pensée, ses réflexions sont pas assez, je trouve, mises en avant à notre époque, parce qu'il était précurseur sur plein de gens, sur plein de choses, pardon. Mais Oufouette Boigny, l'homme de la Côte d'Ivoire...
On sent que les pères blancs ont été très présents en Afrique noire et en Afrique saharienne.
La basilique Yomoussoukro n'est pas sortie de nulle part. Mais Paul Biya, que le pape a été voir récemment, qui est quand même maintenant le président le plus vieux de la planète, puisqu'il a 92 ans, il vient d'être élu
pour la cinquième ou la sixième fois,
huitième mandat. Donc, mais ces gens sont pétris de valeurs chrétiennes. Et d'ailleurs, j'avais eu la chance de rencontrer pour mon livre sur la résistance cette grande résistante qui s'appelle Odile de Vasselot, qui est morte à plus de 100 ans assez récemment, et qui m'avait, après, elle avait été chargée d'installer le lycée Sainte-Marie à Abidjan. Et elle raconte, alors elle m'a passé un petit fascicule qu'elle faisait circuler uniquement dans sa famille, où elle raconte Fouette Boigny. Alors c'est formidable, elle a un portrait de Fouette Boigny, je ne sais pas si vous l'avez sélectionné dans vos lectures, mais c'est saisissant, donc c'est assez intéressant.
Alors on va en direct voilà, retrouver...
Si vous regardez Vasselot...
Alors...
Parce qu'il y a un index, vous savez,
oui,
c'est des ouvrages à l'ancienne, il y a un index.
Mais oui, c'est très agréable, j'étais justement en train de consulter. Mais alors, je regarde Vasselot et voilà.
Alors attendez, on va... Bah. Oui.
Je cherchais Oufouette et Vasselot et je trouve...
Oui. Bah alors vous voyez, c'est un index qui n'est pas...
C'est un ouvrage à l'ancienne, mais...
Vous
retrouverez. Pendant que vous cherchez, donc ce qu'on quand on lit, voilà, et notamment quand on lit cette idée de faire en sorte de ne pas choisir justement entre l'efficacité apostolique et l'intégrité doctrinale, voilà une vraie fracture. Et on sent que entre 54 et 68, voilà, il y en a certains qui disent, voilà, fondamentalement, s'il faut apporter le Christ, ce qui compte, c'est l'efficacité apostolique. Et si la doctrine est un frein, en fait, à la conversion des cœurs, eh bien, mettons la doctrine un peu de côté et adaptons le message. Voilà, on n'est pas obligé de rappeler en permanence l'intégralité du catéchisme.
C'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont engagés sur le terrain social. Et donc, il faut qu'ils s'adaptent aussi à des nouvelles situations, un monde qui change beaucoup, et donc à la fois un bouleversement géopolitique, et qui commence. On peut pas dire... les années 60 commencent...
Pas forcément dans la pratique sacramentelle, il y a toujours des baptêmes, il y a toujours des mariages, voilà. mais ils se rendent compte que, voilà, à côté de ça, la connaissance de la foi est quand même pauvre, et que ceux qui font leur première communion, et pire encore, la communion solennelle, ont malgré tout une connaissance médiocre de l'Église, de ses sacrements, etc.
Les églises catholiques protestantes continuent quand même à être une espèce de matrice de la société française, et donc avec quand même aussi des gens engagés, par exemple on le voit dans le milieu intellectuel, hein, dans les revues, il y a beaucoup de débats théologiques et intellectuels qui sont encore sur la table publique, si je puis dire.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment de bascule où l'Église dit, très bien, c'est Vatican II, il faut faire en sorte que les gens participent plus à la messe, le latin est peut-être un frein, donc pourquoi pas la langue vernaculaire, dialoguons avec les non-croyants, et donc plus l'Église avance vers la société, plus la société se dérobe, parce qu'en fait, l'Église a presque toujours un, deux ou trois combats de retard.
Le problème, c'est que la modernité galope. Hein. Oui. Donc, on essaie de se rapprocher de la modernité. Et voilà. Et la meilleure chose, c'est l'encyclique de 1967 de Paul VI qui interdit la contraception. Et qui il va se mettre à dos, sans mauvais jeu de mots, beaucoup de fidèles par rapport à ça.
Humanévité en 68,
voilà,
justement.
Voilà, et par exemple, il y a beaucoup de... les protestants, les églises protestantes, puisque vous en parliez tout à l'heure, dans les années qui suivent, vont, accepter cette contraception comme ils accepteront après l'IVG. Donc, mais ça fait partie pour certains de la modernité. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit à Vatican II, on en voit encore les conséquences aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire cette grande fracture qu'a produite Vatican II au sein de l'Église catholique, on en voit encore les répercussions aujourd'hui. Sous nos yeux.
On la voit en partie d'ailleurs parce que Vatican II a été une telle fracture qu'une partie de l'Église a décidé que c'était une espèce de sommet et que dans les références de Léon XIV, de François, on sent que Vatican II est presque la loi et les prophètes en entier et que cette rupture est presque sacralisé, c'est-à-dire les papes auparavant se disent « Ok, j'ai 800 ans, j'ai 1200 ans, j'ai 1600 ans derrière moi ». Là, brusquement, on nous fait, des années 1960, une espèce de chibolette, on est pour ou on est contre.
Qu'est-ce que c'est une chibolette ?
Une chibolette, c'est une épreuve redoutable.
D'accord.
Alors, c'est un mot que j'ai trouvé dans Voltaire, vous me pardonnerez.
Ah bon ?
voilà, mais c'est un mot français. Ça vient d'un passage de l'Ancien Testament. Suivant que les gens disaient chibolette ou cibolette, l'attaquant savait que c'était son savait qu'il était en train de frapper sur un copain ou au contraire un adversaire, et donc suivant que vous chuintiez ou vous siffliez chi ou cibolette, vous faisiez partie des méchants ou des gentils. Ouais. Donc voilà, épreuve redoutable et définitive.
Ouais.
si on ouvre le dictionnaire, je crois. Et donc voilà, le Vatican II est devenu une espèce de monstre sacré.
Oui,
donc
mais
c'est
par
normal
la force
que
des choses.
Par
puisque
la force des
Léon
choses,
XIV, c'est vrai que
ça fait 80 ans quand même.
Dès le début de son pontificat, Léon XIV a marteler un peu les apports de Vatican II, il le redit dans son encyclique récente qui fait beaucoup de débats actuellement, il a beaucoup de passages sur les apports de Vatican II dans la continuité de la doctrine sociale et de l'œuvre de ses prédécesseurs. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une forte pression actuellement au sein de l'Église d'un courant qui veut revenir à hanter Vatican II. Donc le pape est obligé sur certains points à montrer que la doctrine de l'Église, c'est celle-là, Vatican II. La règle officielle, c'est Vatican II, quoi.
Enfin, la règle officielle, c'est Vatican II et tous les conciles précédents.
Oui, c'est un enrichissement.
C'est pour ça, il y a un développement de la doctrine, comme disait le saint cardinal Newman.
Non, mais pourquoi vous dites, parce que le pape, pourquoi il met l'accent là-dessus ? C'est parce qu'il met l'accent là-dessus, parce qu'il est obligé de ramener... ses troupes, ses ouailles dans le giron de l'Église mère. Et cette Église mère, elle est le fruit évidemment d'une longue histoire et d'enrichissement d'apports successifs, mais elle est aussi pour l'instant la loi commune, c'est celle de Vatican II.
La loi commune, c'est celle de Vatican II. Enfin, non, la loi commune, c'est la loi de l'Église catholique, dont Vatican II est un des éléments. Mm. Et je suis sûr que, par exemple, le père Louis-Marie de Binière et le cardinal Vesco, qui ont tous les deux très bien lu le Concile Vatican II, n'ont absolument pas la même interprétation des textes.
Oui, mais c'est ça qui est la richesse, hein.
C'est sûr,
ça qui est chouette.
C'est ça.
Hein. Et d'ailleurs, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est juste que, d'ailleurs, on voit bien qu'il faut aussi. Enfin, je pense que si des gens veulent. Célébrer dans d'autres rites que ceux de Vatican II, ça fait aussi partie de la liberté, je trouve. Hein. Le pape est là pour rappeler la loi commune, quoi. Et donc, rappeler que la loi officielle, c'est celle-là, quoi. Voilà, c'est
que la loi officielle, c'est toute la loi et
voilà,
pas juste Vatican II.
Mais le pape a récemment autorisé le cardinal Burke à faire une messe en latin sur un rite d'amant Vatican II la basilique Saint-Pierre.
On est d'accord, le problème de Vatican II, tel qu'il se pose aux chrétiens, et d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre, c'est pas juste une querelle liturgique. Ah non. C'est aussi
ah bah non. C'est le rapport au monde.
C'est la liberté religieuse.
Voilà, c'est le rapport entre tradition, entre conservateur et progressiste, même si ces termes ne sont pas toujours adéquats pour juger des engagements des chrétiens au sein de l'Église. Mais c'est aussi ce rapport, moi je trouve cet élément de tension qui génère des grandes fractures, pardon de revenir au titre
de mon
livre.
Non, mais au contraire.
Mais c'est ça, entre tradition et modernité. Qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que la modernité ? On peut être aussi dans la tradition et être aussi dans la modernité. Enfin, c'est pas forcément des choses qui s'opposent. Voilà, et c'est tout ce qui m'intéresse en fait dans ces engagements. C'est la richesse en fait de ces engagements qui ne sont pas forcément des engagements qui sont d'un côté ou de l'autre, quoi. Il y a des zones grises, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Oui, oui. Et on sent que, voilà, puisqu'on parle de fracture, il y a aussi une espèce de tectonique des plaques. Et donc, les choses sont mouvantes.
Ce qui rend le corps vivant, en fait.
Voilà, et c'est quelque chose qui est parfaitement exprimé dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, parce que quand même, ça fait une heure qu'on parle. Et les grandes fractures, les chrétiens face aux défis du siècle 1954-1968, de Jérôme Cordelier, qui est donc rédacteur en chef du Point, en charge des religions et des spiritualités. Jérôme Cordelier, tous ces personnages que vous avez trouvés, donc on a parlé du père d'Avzy, on a parlé de sœur Claire-Marie, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement étonné, particulièrement surpris? Est-ce qu'il y a une rencontre qui s'est faite entre vous et un des personnages?
Alors, il y en a plusieurs, mais il y a une rencontre qui m'a vraiment très ému. Parce que c'est un homme formidable et il m'a très ému par sa simplicité, son humilité et puis justement par son sens de l'engagement commun, du bien commun. C'est Hubert de Chergé. Hubert de Chergé, c'est le frère de Christian de Chergé, donc qui est le prieur des moines de Tibérine, qui sera assassiné dans des conditions atroces, comme on le sait. Et donc Hubert de Chergé, à partir de l'assassinat de son frère, va en fait non seulement développer des gestes de pardon, mais surtout il va s'engager pour le rapprochement entre chrétiens et musulmans. Et donc il le fait toujours maintenant en ayant des engagements associatifs de base pour rapprocher les chrétiens et musulmans pour éviter que l'ignorance justement arme les tueurs, quoi. Et donc ça, c'est un personnage, je trouve que vraiment il est lumineux, cet homme, donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs pages sur lui.
Oui, oui, et qui sont tout à fait touchantes, et en rappelant d'ailleurs les textes de son frère, et donc et notamment cette espèce de pardon par anticipation du père de Chergé, qui est une phrase magnifique, en gros, il reprend presque les paroles du Christ sur la croix, disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », et c'est exactement ce qu'il écrit Mutatis Mutandis dans sa lettre, en s'adressant à celui qui ne sait pas ce qu'il va faire.
Mais par exemple aussi, je trouve qu'un homme comme Bernard Zeller, qui a dédié sa vie à la mémoire de son père, est aussi m'a beaucoup ému par son engagement, la sincérité de son engagement. Ce sont des opinions que je ne partage pas, mais je trouve que cet homme, qui a dédié sa, et face à une injustice quand même, qui était que son père ait été poursuivi comme ça par la hargne de De Gaulle, et puis aussi par le chose inexplicable de Edmond Michelet, pourtant, moi, je voue un culte à Edmond Michelet, étant en plus briviste d'origine.
Tout s'explique.
La famille Michelet, ce sont des gens... ma famille était très liée à la famille Michelet. Et j'aime beaucoup l'engagement d'Edmond Michelet, qui a été un des premiers, le 17 juin 1940, à défier l'occupant nazi, alors que c'était un notable, un père de famille, il avait 4 enfants, enfin, il prenait des risques quand même très, très importants à le faire. Et après, il a été un pilier des gouvernements successifs de Gaulle, déporté à Dachau. Enfin, je trouve, on a parlé, Malraux disait l'aumônier de la France, mais c'était un engagement beau. Par contre, là, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas un geste d'humanité vis-à-vis de ce général putschiste, qui a eu le tort de choisir un autre combat, mais qui l'a fait en tout cas en cohérence et en sincérité par rapport à ses engagements, quoi. Et ce que je trouve que...
Et avec la même mystique de la désobéissance qui a guidé De Gaulle.
Voilà. Et, là, et avec, je trouve que la mémoire que porte son fils Bernard Zeller dans cette direction est aussi quelque chose d'assez émouvant. Mais aussi la rencontre avec Slimane Zeghidour, qui est ce journaliste qui est né dans un village dans la montagne algérienne, donc qui après a été... il dit d'ailleurs de manière très belle, sans l'armée française, je n'aurais pas été éduqué, j'aurais pas reçu des soins, alors que son frère était mort faute de soins, et qui après va arriver en France avec quelques francs en poche, et va devenir maintenant après un grand éditorialiste français en essayant de faire la part des choses dans ces contextes passionnels entre le juste et le vrai dans ces guerres aussi, et c'est un engagement qui est passionnant. Mais la sœur Claire-Marie, bon, je n'y reviens pas, mais ce côté sentinelle...
Ça fait vraiment partie des pages. Vous vous étendez longuement sur elle, et merci d'ailleurs.
Oui, parce qu'elle est émouvante, c'est un personnage.
Elle est émouvante.
C'est une sentinelle de Dieu,
ça aurait été super dommage que pour respecter on ne sait quel équilibre théorique entre chacun, vous lui consacriez une part moins congrue. Voilà, donc c'est très... Vous avez cité De Gaulle, et donc par rapport justement à l'occasion de... du général Zeller et de son fils, et donc vous nous dites ce qu'on sait, que De Gaulle était catholique, vous citez notamment Arnaud Tessier, donc qui parle de
l'historien, grand historien, voilà. Ancien président du conseil scientifique de la Fondation De Gaulle, donc voilà, il connaît le...
Voilà, mais vous citez aussi l'analyse de l'historienne Georgette Elger.
Grande historienne de la 4e République. Hein.
Voilà. Sa pratique assidue et discrète de la religion catholique, on parle de De Gaulle, ses références à Dieu dans sa correspondance, une déclaration publique « Je suis un Français libre, je crois en Dieu et en ma patrie », écrit-il en 1940 dans une profession de foi peu connue et qui pourtant fait date, tout permet de penser que De Gaulle est profondément croyant, il a donc foi en la rédemption et tout être humain lui semble perfectible. Rendre les Français dignes de la France, y a-t-il une plus noble ambition ? La politique, quand elle est un art et un service, une action pour un idéal à travers des réalités, ne saurait se concevoir sans l'adhésion profonde du peuple souverain. Et celle-ci ne peut être obtenue que par la parole. Je parle, il le faut bien. L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite. Et donc ça, c'est cette historienne qui nous parle de De Gaulle et verbe incarné d'une certaine manière, et qui décide justement, et on sent que c'est son éducation catholique qui parle, il décide de prêcher en quelque sorte, et il décide de prendre la parole, parce que c'est cette parole qui meut en fait le monde catholique. Dans votre livre, on le voit bien, il y a des actes, mais par exemple, Davzy, bien sûr, porte des valises, mais il écrit des livres. Georges Bidault...
A contrario, vous avez Bastien Thierry, qui était un grand catholique aussi.
Ah oui, hein, qui lui ne dit rien, il se contente de manier le bazooka.
Et vous avez les figures très, très différentes.
Le catholicisme de De Gaulle, justement, ce n'est pas une fracture. On a l'impression qu'il a compris, lui, ce mouvement d'adéquation à l'époque que prône d'aggiornamento que prône l'Église catholique.
Oui, alors De Gaulle, c'était un catholique profond. Hein, il avait reçu une éducation chrétienne très forte par ses parents notamment. Mais il faisait vraiment la part des choses entre l'homme privé et l'homme public. C'est-à-dire que bon, c'était une autre époque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était plus accepté que par d'autres, qu'à d'autres endroits. C'est que je crois que seulement deux fois il a communié alors qu'il était en position
vous citez
président.
Notamment avec son voyage en URSS, voilà.
Non, je regardais juste ce que j'avais écrit sur Bastien Thierry et par rapport à Davzy, justement, parce
D'accord.
que c'était les deux faces. Donc voilà.
Et que dites-vous sur Bastien Thierry ? Ah oui, Davzy et Bastien Thierry, deux faces de la guerre qui ensanglantent la terre de Saint-Augustin au nom de convictions spirituelles frontalement opposées. Voilà. Et
On revient sur De Gaulle, pardon.
Revenons sur De Gaulle.
Ce qui est intéressant, c'est que De Gaulle, évidemment, quand on regarde De Gaulle, ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment un catholique en action, quand même. Hein, voilà. Mais par contre, qui prend une distance vraiment très forte par rapport à son catholicisme, parce qu'il ne veut pas l'imposer à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, De Gaulle sera souvent le grand ennemi de grands catholiques, par exemple de Georges Bidault. Alors, par exemple, j'ai lu les mémoires de Georges Bidault. Alors, il faut voir la dégelée de fiel contre de Gaulle que bon, on peut comprendre, mais les deux hommes se détestaient vraiment. Mais j'ai été très intéressé aussi. Enfin, pardon, je fais juste un
non,
petit.
Non, mais je vous en prie.
Mais moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, et dans les ouvrages précédents, j'en ai fait beaucoup mention, c'est la destinée du général Leclerc, par exemple. Où Leclerc, lui, est un vrai catholique convaincu, et donc qui sera d'ailleurs qui aurait pu être un des artisans des décolonisations s'il n'était pas mort dans cet accident d'avion en 1947. Mais il disait cette phrase qui est très forte, je trouve, c'est on ne tue pas une idée avec une balle. Je trouve c'est sa fille qui m'a raconté cette phrase, la dernière fille du général Leclerc qui est encore vivante. Et donc Leclerc, lui, était un catholique plus fervent et en tout cas plus démonstratif, si on peut dire, de son catholicisme que de Gaulle. De Gaulle, lui, faisait la part des choses. S'il avait, par exemple, une chapelle privée pour que son frère, son neveu, puisse célébrer la messe, c'était pas dans les affaires publiques à l'Élysée, c'était pas dans le... Il ne confondait pas, en fait, les deux fonctions. Mais je trouve que, quand même, on sent que c'est le catholicisme de Gaulle est quand même une matrice importante dans... je trouve qu'on ne peut pas comprendre de Gaulle si on n'explore pas sa foi, en fait, son catholicisme.
Absolument. Dans les grandes fractures qui concourent à la fois à fracturer, mais aussi à rapprocher. C'est ça qui est intéressant dans toutes les fractures que vous mettez en scène. C'est il y a cet éloignement avec le monde et puis ce rapprochement avec le monde, ce qui fait que la fracture se produit à l'intérieur de l'Église catholique au moment où elle essaie de recoller les morceaux avec le monde. Mais il y en a d'autres.
C'est exactement ce que j'ai voulu. Merci de mettre le doigt. C'est exactement ce que j'ai voulu dire dans ce livre. Pourquoi je l'ai appelé les grandes fractures ? Parce que ce sont les fractures externes, c'est-à-dire les fractures des chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes.
Vous en parlez à peine.
Pas beaucoup, hein. Mais le catholique, protestant, si on peut dire, par rapport à la société qui les entoure et les grandes fractures par rapport à l'histoire qui est en train de se mouvoir, si je puis dire, et les grandes fractures aussi internes au sein de cette communauté qu'on voit un peu comme un bloc monolithique, je le répète, mais qui en fait est traversé par des courants très, très différents, avec des débats, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de débats, comme on est en train de le faire actuellement, là, au sein de ces communautés, parce que c'est passionnant, en fait. Et donc, c'est intéressant d'avoir des lectures complètement différentes. Et
absolument, d'autant que ces courants antagonistes, qui à l'époque commencent à rentrer dans une espèce de vortex, existent encore aujourd'hui, vous l'avez signalé. Je voudrais parler d'un point important, puisque évidemment la Seconde Guerre mondiale, c'est le choc du nazisme, évidemment l'antisémitisme prend une dimension totalement différente après l'Holocauste, et on se retrouve avec un autre personnage, Isaac, tout à fait intéressant. Et pourquoi ? Parce que après la guerre, il veut œuvrer à la réconciliation en fait entre les Juifs et l'Église catholique.
Voilà.
Pour le dire de cette manière-là, rapide, avec d'ailleurs Pie XII qui ne prononcera pas perfidum.
Jean 23,
qui ne prononcera pas perfidum. Mais justement, comme vous parliez des orthodoxes, il y en a deux là, dans le bouquin. Jules Isaac fait partie des 28 juifs qui, aux côtés de 23 protestants, 9 catholiques et 2 orthodoxes grecs, parmi 70 personnalités venues de 17 pays, se réunissent à Silesberg, en Suisse, du 30 juillet au 5 août 1947, afin de réfléchir ensemble aux causes de l'antisémitisme chrétien. Et là, vous citez les 10 propositions qui sortent de ce colloque, largement inspirées des idées de Jules Isaac. Le même Dieu vivant parle à tous dans l'Ancien Testament. Parle à tous. Dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, les premiers disciples, les apôtres et les premiers martyrs étaient juifs. Et puis, donc, très bien, une espèce de... les racines communes. Après, il faut éviter d'user du mot « juif » au sens exclusif de « ennemi de Jésus » ou de l'allocution « ennemi de Jésus » pour désigner le peuple juif dans son entier, ça c'est la sixième. Et enfin, les trois dernières propositions, il faut éviter, proposition 10, de parler des juifs comme s'ils n'avaient pas été les premiers à être de l'Église. Et là, c'est vraiment une espèce de révolution copernicienne.
Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure quels étaient les personnages émouvants. Donc, c'est vrai que j'ai mis l'accent un peu plus sur les rencontres que j'avais pu faire
à titre personnel,
contemporaine, à titre personnel. Mais je trouve que aussi Jules Isaac est un personnage incroyable, quoi. Donc, Jules Isaac, faut rappeler, c'est un historien. L'Emmanuel Mallet-Isaac, je pense que vos auditeurs s'en souviennent, certains de vos auditeurs. Donc, ce sont des manuels très importants. Et surtout cet homme qui va quand même perdre sa femme, sa fille, qui dans les camps de concentration de manière absolument horrible. Lui, il va échapper à l'arrestation parce qu'il était chez le coiffeur. Il est revenu à son hôtel et sa femme et sa fille étaient partis. Et donc, il va œuvrer au lieu, justement, on est encore dans le droit fil, en fait, du pardon, au lieu de nourrir un ressentiment, il va œuvrer au rapprochement. Et donc, c'est ça qui est très beau, à une époque où, évidemment, des siècles et des siècles d'anti-judaïsme ont aussi constitué l'Église catholique. Et donc, lui, grâce à son rapprochement avec Jean XXIII, et surtout un cardinal allemand que j'ai découvert en faisant ce livre, qui s'appelle Augustin Bach, eh bien, il va œuvrer à ce rapprochement entre juifs et chrétiens qui va donner naissance d'ailleurs aux amitiés judéo-chrétiennes. Et donc c'est je trouve aussi c'est un peu des chercheurs comme ça de lumière, de vérité et qui essayent de réconcilier de rassembler les hommes entre eux. Et puis c'est pas un béni oui-oui ou c'est, enfin vous voyez, je trouve c'est un engagement vraiment fort, solide, intense.
Oui, et qui donc va évidemment avoir. Alors, c'est comme tous les engagements, c'est pas lui seul qui réussit à bouger.
Non, bien sûr. On le dit, c'est lui qui est quand même le détonateur, le déclic. Mais,
voilà, et en cas qui lui.
Avec un pape Paul VI, parce qu'en plus, les coulisses de la déclaration de Nostra Aetate, c'est un vrai thriller, hein, parce que le pape Paul VI qui atterrit en Jordanie pour éviter de froisser quand il va visiter donc Israël, pour éviter de froisser les évêques arabes, parce que cette Nostra Aetate a été posée au trébuchet, chaque terme a été posé au trébuchet. D'abord on a dit que c'était l'Église catholique se rapprochait de toutes les religions. En fait, le cœur de la déclaration, c'est le rapprochement avec les juifs et la fin de l'antijudaïsme chrétien. Mais tout ça est un numéro de diplomatie, on pèse chaque mot, chaque, on se dit ce terme, oulala, ça va, les évêques arabes vont pas être contents. D'un autre côté, bah, les juifs vont prendre. Enfin, c'est intéressant de voir comment on construit comme ça un matériau à la fois diplomatique, mais à grande portée spirituelle et donc politique aussi.
Jérôme Cordelier, donc dans votre ouvrage Des Grandes Fractures, donc troisième volume d'une série qui commence en 1939, donc voilà, vous en êtes au troisième volume, on est en 68, vous avez parcouru 30 ans.
Oui.
Alors encore plusieurs ouvrages à venir, ou bien vous avez l'impression que, et vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, ce qu'il y a d'intéressant cette grosse décennie 54-68, c'est que on a l'impression que tous les problèmes sont encore posés sur la table. Je lisais l'autre jour un recueil d'articles de Salleron. Donc grand traditionnaliste qui dans les années 70 écrivait et il parlait de la datation des évangiles, il parlait des problèmes de Missel et je me disais mais c'est incroyable, le bouquin est paru en 2024, rien n'a changé, les mêmes problèmes sont toujours sur la table. Et est-ce qu'il y a matière en fait à poursuivre cette histoire? Est-ce que vous avez le sentiment que ces grandes fractures là n'ont pas figé l'histoire mais qu'on est toujours en train de tourner autour des mêmes pôles?
Moi j'étais vraiment frappé en écrivant vraiment. Et puis pour vous dire, j'ai fait l'introduction du livre à la fin, en fait. Moi, je fais le livre et puis après, je fais l'introduction à la fin. Et j'ai été frappé pour essayer de lier un peu tous ces événements. J'étais frappé par les rebondissements aujourd'hui. Enfin, je veux dire, la guerre d'Algérie, bon, pas besoin de s'éterniser. On voit que les blessures continuent, que les mémoires de part et d'autre ne sont pas...
apaisées, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, même, puisqu'en plus, les politiques mettent beaucoup de sel là-dessus, côté algérien plus que côté français. Mais donc, il y a ça. Vatican II, bon, ben... il y aura sans doute peut-être début juillet un schisme au sein de l'Église catholique parce que beaucoup de gens sont contre la ligne Vatican II donc incarnée par le pape. Donc on voit que ce conflit entre tradition et modernité, voilà, on l'a vu le succès des pèlerinages de Chartres, par exemple, le retour de la messe en latin. Donc, c'est un sujet qui reste.
Pèlerinage de Chartres, où il y avait des lecteurs de la croix de gauche qui expliquaient qu'ils préféraient la liturgie traditionnelle qui leur paraissait plus priante, mais qu'à part ça, voilà.
Oui, bah oui, parce que de toute façon, la quête de beaucoup de monde dans ce siècle, où tout est chamboulé, la quête de sens, d'ancrage et de sacré fait que. Les repères sont souvent brouillés. Mais bon, donc Vatican II, voilà. Nostra Aetate, qui met fin à l'antijudaïsme. On voit comment a ressurgi l'antisémitisme, mais qui n'est pas un antisémitisme chrétien, qui est plus un antisémitisme qui est plus le par rapport au conflit israélo-palestinien, hein, qui ressurgit. Mais en tout cas, ce sont les mêmes ressorts, si on peut dire.
Différent quand même, là.
Différent, oui, c'est vrai.
On a l'impression qu'il y a un antisémitisme de gauche, un antisémitisme musulman qui sont conjugués à cette occasion-là.
En tout cas, ce que je veux dire, c'est que juste, c'est le conflit entre donc, tradition et modernité, le rapport à l'autre, le rapport au Sud, le rapport à ces espèces de dialogues entre les mondes, si on peut dire, des mondes différents. Bon, ben, là aussi, on le retrouve dans cette période. Donc, c'est un livre très contemporain, en fait.
C'est un livre très contemporain, parce que effectivement, c'est le moment où tout se noue et où, d'ailleurs, l'Église institutionnelle, pour le dire de cette manière-là, à la fois prend en compte le monde, mais n'a pas perdu, si je veux dire, une espèce de réflexe clérical où il faut quand même que tout le monde marche derrière le pape et je ne veux voir qu'une seule tête. Et on le voit bien, dans les décisions de l'Église de France, où... certains ont des positions très libérales. Certains dominicains défendent l'avortement, alors même que le pape a expliqué que ça ne se faisait pas, et pas que le dernier pape en date, beaucoup d'autres avant lui. L'Église catholique admet, en France en tout cas, à la fois les dominicains qui prêchent. Qui prêchent le fait que l'avortement n'est pas un péché.
C'est pas les dominicains qui disent ça, certaines individualités.
Bien sûr, ces dominicains-là, mais aussi le père Bonnet qui, lui, prêche à la fois le mariage des prêtres et en même temps le maintien des fêtes traditionnelles avec tout leur appareil le plus folklorique possible, parce que pour lui, c'est une religiosité populaire qui permet d'ancrer véritablement. Et enfin, au contraire, les autres dominicains qui, eux aussi, sont en désobéissance avec l'ordre parce qu'ils considèrent que l'ordre marche sur la tête.
Mais ce qui est intéressant, c'est que... Oui, pardon.
Non,
ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de mai 68, mais c'est la dernière partie de l'ouvrage, et on retrouve tout ça dans mai 68. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les jésuites et les dominicains qui sont... assez proche des étudiants qui sont dans la rue, et de l'autre, vous avez par exemple le père Lustiger, qui est au centre Richelieu à côté de la Sorbonne, et qui est conservateur, et ne supporte pas évidemment qu'on dise CRS-SS, puisqu'il a quand même perdu sa mère dans les camps de concentration. Et au milieu, vous avez cet archevêque de Paris, Monseigneur Marty, qui est un peu brinque-ballé par les événements, et qui dit cette phrase, d'ailleurs j'en ai fait le titre du chapitre, Dieu n'est pas conservateur, sous les voûtes de Notre-Dame de Paris. Donc tous ces débats, ils sont déjà dans cette centrifugeuse-là. Mais moi je trouve ça bien qu'il y ait comme ça des positions très différentes au nom d'un même évangile.
Mais vous le rappeliez tout à l'heure, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Après ça, il y a aussi la manière dont, juridiquement, administrativement, disciplinairement, l'Église de France a favoriser tel ou tel courant au détriment de tel autre et a eu une charité à géométrie variable vis-à-vis de tous les contestataires.
Là, vous parlez de quelle période, en fait?
Je parle de la période de l'après-concile Vatican II.
Oui. Enfin, bah, je...
Non, mais je... Donc, pour revenir à ma question initiale, à votre avis, maintenant qu'on a posé ces 14 ans comme étant, ces 15 ans comme étant un moment décisif, est-ce qu'il y a matière à écrire sur 69, 88, 20 ou...
Bah, écoutez, je chemine en fait, donc je vais voir, mais c'est vrai que les années après sont très intéressantes aussi pour d'autres raisons. C'est-à-dire que il y a une grande richesse, et moi, ce qui me pousse un petit peu, c'est que je m'aperçois que c'est une mémoire oubliée. Donc j'ai l'impression, depuis que j'explore, c'est mon 10e livre, depuis que j'explore cette mémoire chrétienne, ces engagements chrétiens, j'ai l'impression de faire ressurgir, enfin à mon modeste niveau, mais une Atlantide. Et donc c'est ça qui m'intéresse, en faisant des livres qui ne soient pas des livres lus par de grands érudits, mais qui soient des livres qui puissent circuler et être suffisamment vivant pour accrocher les gens, même si évidemment j'essaye de faire les choses très sérieusement et donc avec solidité et donc voilà. Mais je chemine donc voilà. J'espère qu'il y aura d'autres.
Nous aussi.
En tout cas, je vous remercie de m'y encourager.
Absolument. Et tous les auditeurs de Radio Courtoisie donc, peuvent retrouver Jérôme Cordelier et son livre vendredi 5 juin de 17h à 19h à la librairie de l'espace Bernanos, dont on vous parle souvent ici, donc 4 rue du Havre dans le 9e arrondissement, donc, vendredi 5 juin de 17h à 19h, voilà, pour lire Jérôme Cordelier, Les grandes fractures, les chrétiens au défi du siècle 1954-1968. Voilà. C'est pas pour faire le malin, mais je conseille aussi aux gens de lire À la droite du Père, un ouvrage dirigé par Yann Raison du Clusiou, absolument remarquable, et sur la même période, en partie, et en espérant qu'il apparaîtra dans le tome suivant, donc la biographie que Yann Raison du Clusiou a écrite du père Serge Bonnet. Il a lui aussi l'impression de faire ressurgir une Atlantide avec des débats dont l'historiographie a parfois retenu uniquement les vainqueurs, alors que justement il y a quelques vaincus qui méritent d'être étudiés. Chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir été avec nous, merci à celui qui a envoyé une citation de Julien Green. Nous sommes en train de perdre la jeunesse, dit-il dans son journal en novembre 69, de même qu'on dit que l'Église a perdu la classe ouvrière au siècle dernier, la jeunesse dans son ensemble abandonne le Christ. Quel lendemain allons-nous connaître? Eh bien, le lendemain, c'est aujourd'hui. Et comme le disait saint Augustin, c'est nous qui sommes les temps. Donc, c'est à nous de faire en sorte que les choses se passent bien. Merci et à demain sur Radio Courtoisie.
D'entendre le libre journal du lundi soir dirigé par Richard de Sèze. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 1er juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.